Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi. On est ravis d'être avec vous pour cette nouvelle semaine de midi à 15h tous les jours, du lundi au vendredi. Vous nous suivez à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Story, canal 23. Et on est aujourd'hui avec Thibaut Texer. Salut Thibaut.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Perico Légas, l'homme du lundi, salut Perico.
Il va y avoir des champignons, c'est bon signe.
Des champignons où?
Ben, parce qu'il
y a dans les forêts.
Oui, j'espère.
Eh bien écoutez, super. Emmanuel Dancourt, notre journaliste indépendante à Dijon. Salut Emmanuel.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Et puis Jérôme Lavrieux, qui est aujourd'hui directeur de gîte. Ça va Jérôme?
Très bien.
Vous avez remis le chauffage?
Encore. Ah, cheminée pour l'instant.
Tu l'as perdu, toi?
Ah, je l'ai remis. Elisabeth Borne, elle a dit s'il fait 15 degrés, vous avez le droit.
Ouais.
Oui, bah, je vais aller contrôler dans son bureau.
On verra ça plus tard. Justement, on en parle. Elisabeth Borne, dans cette émission, elle annonce une décision sur la réforme des retraites avant la fin de la semaine. Le gouvernement doit-il foncer sur ce dossier? On attend vos réactions au 32-16. À midi et demi, la disparition progressive des bureaux de poste dans les centres-villes. Est-ce que ça vous choque? À 13h, un projet de loi à l'étude pour interdire les arrêts maladie en téléconsultation. Est-ce que c'est logique ou scandaleux? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et il nous donnera des conseils, Stéphane, pour négocier une augmentation. Voilà, ça ce sera à 13h50. À 14h, un automobiliste sur deux aujourd'hui en France est empêché de rouler dans les grandes agglomérations car il ne respecte pas les critères environnementaux des zones à faible émission. Est-ce qu'il faut supprimer ces zones? Et puis on terminera avec un très très beau cadeau à gagner, Thibaut.
Et oui, la Coupe du Monde au Qatar a déjà commencé sur RMC et nous avons décidé d'envoyer l'un d'entre vous au Qatar pour la Coupe du Monde, pour assister au match Tunisie-France. Ce sera le 30 novembre prochain. Le vol, l'hébergement et vos places pour le match, tout est à nos frais. Inscrivez-vous dès maintenant en renvoyant RMC au 7-32-16. RMC au 7-32-16. Le grand gagnant sera à l'antenne le vendredi 30 septembre.
RMC Estelle Midi.
Il est midi 6, vous êtes sur RMC et on va démarrer avec la prise de parole du jour. C'est celle d'Elisabeth Borne sur la réforme des retraites. C'était ce matin, elle était invitée d'Apolline de Malherbe et la Première Ministre a annoncé qu'une décision serait prise avant la fin de la semaine. Écoutez.
Je peux vous rassurer, la décision, avec le Président de la République, on décidera d'ici la fin de la semaine.
Et pourquoi d'ici la fin de la semaine et pourquoi pas la semaine?
Parce qu'on cherche la meilleure voie pour, je vous dis, à la fois mettre en œuvre cette réforme rapidement, à l'été 2023, en même temps, avoir laissé la place au dialogue et à la concertation.
Si vous faites effectivement cette réforme, et vous venez de dire qu'il n'était pas question de ne pas la faire, donc ça déjà, l'option ne pas la faire est exclue.
Je vous confirme, et tous ceux qui font semblant de croire qu'il n'y a pas un problème de déficit du système de retraite, je les invite à relire le rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui est très clair, non seulement il y a un déficit, mais ce déficit se creuse.
Voilà, décision avant la fin de la semaine en ce qui concerne la réforme des retraites, Thibaut Texer, mais en tout cas tout le monde s'écharpe sur le sujet.
Oui, c'est un sujet très sensible qui divise le monde politique, on s'en doute bien, à commencer par l'opposition de gauche qui est farouchement opposée. À droite, c'est la méthode qui interroge. Le président doit respecter le dialogue social, expliqué il y a quelques jours Bruno Retailleau. Pour Marine Le Pen, face aux difficultés du pouvoir d'achat qui impacte les Français, il n'est pas urgent de s'attaquer aux retraites. Là où c'est plus surprenant, c'est qu'il existe un ton dissonant au sein de la majorité. Dans une interview au Parisien, Yael Braun-Pivet appelle l'exécutif à réfléchir et prendre son temps, le temps de la concertation sur un sujet aussi important. Dit-elle, un possible passage en force qui ne plaît pas non plus à François Bayrou, allié de la Macronie. Le président du Modem se place sur la même ligne de conduite que la présidente de l'Assemblée nationale. Côté syndicat, la CGT annonce qu'elle fera barrage à un 49-3. Si le gouvernement cherche à passer en force, il trouvera la CGT. Même la CFDT, plutôt modérée, annonce par le biais de son secrétaire général Laurent Berger qu'il s'opposera par tous les moyens à une réforme des retraites qui passerait par un amendement du projet de loi finance de la Sécurité sociale. Passage en force ou dialogue, la décision de l'exécutif sur la méthode envisagée sera rendue publique d'ici à la fin de la semaine.
Alors le gouvernement doit-il foncer sur ce dossier? Je vais commencer avec vous, Perico Légas.
Je vais sauter une étape sur le fond du problème de savoir est-ce qu'il faut foncer pour quel type de retraite. Dans la mare du fanion rouge de la limite d'âge, on sait bien que l'enjeu c'est le temps de cotisation en fonction de l'activité. Voilà. Et surtout, nous avons besoin d'emplois qui soient cotisants pour payer la retraite de ceux qui vont arriver. Emploi cotisant, ça veut dire, vous connaissez ma rengaine, des emplois industriels créés. Là, je suis en train de penser à l'instant, en vous écoutant.
Oui.
Et si? Donc, ils vont jouer le 49-3.
Bah, c'est pas sûr, encore.
Non, mon idée est la suivante. Et ils veulent le perdre pour dissoudre. Je pense que Macron pense qu'il sait pas mal de dissoudre maintenant. la NUPES est en difficulté. Il y aura une période de crainte.
Parce que vous pensez que
c'est
là,
une hypothèse,
là,
j'ai pensez, pas le moindre élément.
Vous pensez que le parti d'Emmanuel Macron peut avoir la majorité à l'Assemblée?
Ils l'ont pas. Bayrou n'ira pas. Le Modem n'ira pas. Sauf s'il y a renégociation totale, c'est-à-dire un autre délai, un autre discours, ce qu'a demandé François Bayrou.
Voilà.
Si c'est avant la fin de la semaine, ils y vont sans le Modem. La droite qui pourrait voter n'ira pas pour des raisons de forme. Et donc c'est un risque énorme. Ça veut donc dire qu'elle va mettre 49-3. Quitte au double, quitte au triple, avec le risque de le perdre. Dissolution, nouvelle élection, et ça permet à Macron de revenir en scène.
Voilà.
J'ai pas le moindre élément. Je dis, c'est tellement bête de dire, alors qu'elle a pas, sa propre majorité est fragile. Madame Borne qui dit, ça sera décidé avant la fin de la semaine. C'est tellement bête, c'est tellement irresponsable, c'est tellement grave.
Parce qu'on voit pas comment elle peut concerter avant la fin de la semaine.
Je pense que c'est un coup de génie qu'on nous sort de l'Élysée pour on va faire un truc. Parce que là, ça tient pas la route. Elle peut que passer pour une...
Non, mais la dissolution, ça tient pas la route non plus.
D'accord, sauf que là, elle passe pas. Elle a pas de majorité. Elle en a pas de façon absolue.
Elle est certainement pas sûre d'en avoir une avec la dissolution, excusez-moi.
En plus, quelle urgence? Le corps vient de dire qu'il n'y a pas d'urgence. Les caisses ne seront pas déficitaires.
Mais elle a pas lu les mêmes paragraphes que vous, je pense.
Mais donc, il y a un stratagème politique. Il n'y a absolument pas de souci. Se foutre de la retraite comme dans l'an 40. Il y a un stratagème politique pour faire un coup. Je sais pas lequel, mais en tout cas, ça sent mauvais.
Alors, Jérôme Lavrieux, vous qui connaissez bien la politique, justement, est-ce que quand même, ce serait pas le moment idéal pour prendre des décisions? Emmanuel Macron ne peut pas être réélu, donc est-ce que c'est pas le moment justement de passer en force et quelque part d'imposer ses idées?
Moi, je pense que la vérité est proche de ce que vient de nous dire Péricot, mais pas tout à fait.
Ah.
Je pense qu'il n'y aura pas de 49-3. Tout ça, c'est une histoire d'ego. Chacun montre ses muscles pour apprécier.
C'est quand même nos retraites.
Bayrou dit... Non, mais le problème des retraites, on va le clore tout de suite. Bien entendu, il y aura un allongement de la durée de cotisation et un déport de l'âge minimum de départ en retraite. Tout le monde le sait, y compris les socialistes qui l'ont voté dans les lois quand ils étaient au pouvoir. Et tous ceux qui vous promettent qu'on reviendra à 60 ans, si vous les croyez, ne vous gênez pas, votez pour eux, mais venez pas pleurer après. Parce qu'ils vous mentent. Ça n'est pas possible. Quand elle dit on va prendre la décision, c'est pas la décision, est-ce qu'on réforme ou pas? Est-ce qu'il y a besoin de réforme ou pas? C'est comment je fais la réforme? Donc pour l'instant, tout le monde a montré ses muscles. Édouard Philippe dit maintenant, dans un mois, dans trois mois, j'y suis avec vous. François Bayrou, qui a besoin d'exister avec son groupe Modem, il sait qu'on ne peut pas faire sans lui, dit pas un amendement dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, ce n'est pas possible. Donc que va nous dire dans une semaine Madame Borne? Ce ne sera pas par le biais d'un amendement dans le projet de loi de finances, donc il n'y aura pas de 49-3. Ce sera un texte de loi qui sera à voter en janvier. Et comme ça, tout sera sauf et il n'y aura pas de dissolution. Parce qu'on ne fait pas voter les... S'il y a une dissolution en janvier, mon cher ami, ça veut dire qu'il y a une élection début mars.
Mais c'est ça.
Au plus tard, on ne fait pas voter les gens en mars en France.
Ah bon? Depuis... Mais en avril, ça passe?
En général, c'est au mois de mai que ça se passe, parce que
pourquoi
c'est mieux.
Pourquoi on ne peut pas voter en mars?
On a voté en mars, déjà.
Parce qu'il fait froid.
Parce qu'il fait froid, qu'il ne fait pas beau, et que les gens n'aiment pas faire campagne électorale à ce moment-là. Et moi, je vous le dis, le président ne prendra pas le risque de faire une dissolution. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a une seule chose en ligne de mire, c'est les Jeux Olympiques qui sont dans 2024.
Il concourt dans quelle catégorie?
Toutes les catégories, lui, à mon avis. Et je pense qu'il peut avoir la médaille d'or. Il pense qu'il peut avoir la médaille d'or dans chacune des catégories. Et donc, l'objectif, c'est que la France soit pacifiée au moment des Jeux Olympiques et qu'il ne se retrouve pas, lui, parce que la dernière fois qu'il y en a un qui a voulu faire une dissolution pour convenance personnelle, pour s'assurer une majorité, c'est Jacques Chirac sur les conseils éclairés de Dominique de Villepin. Et ça s'est retrouvé contre lui, ça a moyennement marché. Je pense qu'il n'a pas envie d'arriver en cohabitation à ce moment-là. Ce que je vous dis permettra à tout le monde de sauver la face et d'avoir une réforme en janvier.
Le 49-3, même dans le cours, ça peut faire descendre les gens dans la rue pour vous?
Voilà, je sais pas si les gens sont prêts à redescendre dans la rue en ce moment, dans l'état dans lequel on est. Ouais, non, mais la France, elle a changé, hein, depuis les gilets jaunes. Et on est tous un peu plus centrés sur nos nombrils avec des problèmes à régler. C'est drôle parce que vous, messieurs, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, vous êtes partis sur le comment. Et moi, je me suis, en réfléchissant ce matin, je me suis plutôt intéressée au pourquoi. Finalement, pourquoi on a fait cette réforme? Faut pas se leurrer, hein, cette réforme des retraites. Elle est également là pour équilibrer les finances de l'État dans son ensemble, pour donner des gages aux créanciers de la France sur notre capacité à réduire nos déficits, afin d'éviter une défiance vis-à-vis de justement notre capacité à rembourser, parce qu'aujourd'hui, notre dette
On la rembourse jamais, la dette.
Pas.
On rembourse que les intérêts.
Ouais, mais pourquoi, Estelle? Parce qu'on nous fait encore confiance. Mais si on creuse sans cesse dans notre déficit, à un moment, cette confiance, elle va s'étioler. Et quand les taux d'intérêt augmentent, alors, ça risque de faire très mal quand on va avoir du mal à payer ne serait-ce que les intérêts, de cette dette. Et donc, cette réforme, en fait, c'est un gage qu'on a promis à l'Europe et aux créanciers du reste du monde et qui nous a permis, de gérer nos déficits jusqu'ici. Donc, en fait, ils ont pas le choix. Donc, le comment, j'en sais rien. J'entends avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites, Jérôme.
Ils ont pas le choix, si, encore une fois. Il y a un excédent de 3 milliards d'euros là.
Non.
Mais
parce qu'il y a plus de gens qui bossent.
Oui, non, mais ça c'est juste.
Si t'as un chômage à zéro, t'as pas besoin de réformer les retraites.
Estelle, la réforme des retraites, c'est que vous la preniez en décembre ou en janvier ou en février, ça n'a aucun impact pour ceux qui seront en retraite et pour le régime de retraite en 2023. Les premiers effets se font sentir 10 ans après. Donc là, on a un gouvernement qui pense à dans 10 ans. Et sauf qu'il est obligé d'avoir une trajectoire budgétaire sur 10 ans. Et donc là, il est obligé de dire, voilà comment je vais faire pour restaurer mes finances. Il ne peut pas faire autrement. Mais dire, si en janvier, je n'ai pas fait de réforme de retraite, les systèmes des retraites s'effondrent, non. Bah la seule manière dont ils s'effondrent, c'est si on n'a pas voté le budget au 31 décembre à minuit. Et là, on ne peut plus payer les fonctionnaires et la Sécu ne peut plus payer aucune prestation. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir une motion de censure qui passe à ce moment-là, parce que là, c'est ce que le lockdown, comme aux États-Unis.
Moi, je sais pas toi, mais moi, j'ai beaucoup de gens retraités autour de moi qui ont des toutes petites retraites pour qui c'est compliqué. Moi, je suis prête à travailler plus pour que les petites retraites, parce que c'est ça aussi la réforme des retraites, que les petites retraites soient aidées. Moi, je veux bien travailler 1 ou 2 ans de plus, hein.
Bah, toi, tu veux bien, mais je peux te dire qu'il y a plein de gens qui ont des métiers extrêmement pénibles.
Il faut être solidaire. On est en France dans un système de solidarité.
Mais je sais que tu travailles beaucoup, mais tout le monde n'est pas journaliste indépendant. Je veux dire, il y a des gens, les gens qui sont maçons, ils ont pas envie de travailler jusqu'à ce
moment-là. Moi, j'aurais pas de retraite, on me l'a déjà dit depuis longtemps. Donc je travaille pour les autres.
C'est extrêmement pénible et les gens ils sont cassés à
55 ans. Mais peut-être faut pas le demander à tout le monde. Peut-être qu'il faut le demander aux gens qui peuvent, comme moi.
Mais sauf que quand tu demandes à chacun trouve que son métier est très pénible.
Oui, mais chacun est très très rivé sur son nombril et à un moment on a quand même un système à sauver quoi.
Et tout le monde ne peut pas bosser jusqu'à 70 ans.
Gouverner c'est choisir et c'est renoncer.
Voilà.
Alors, on est avec Prisca Thévenot, les députés Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour Prisca Thévenot.
Bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. On parle de cette réforme des retraites. Elisabeth Borne a dit, bon, c'était un peu nébuleux, hein, qu'une décision serait prise avant la fin de la semaine, mais on sait toujours pas quelle décision, elle passe en force ou pas?
Écoutez, le pire qui puisse arriver, c'est qu'il n'y ait pas du tout de passage de cette réforme. Parce que je vous écoutais attentivement, Madame Denis, et puis votre invité, je suis désolée, j'ai pas entendu le nom, sur ce qu'on y met en réalité. Et en fait, on y met exactement ce que vous avez dit, l'une et l'autre. C'est-à-dire permettre l'augmentation des pensions minimales qui aujourd'hui sont trop faibles. Elles sont trop faibles. Mais également permettre de mieux prendre en compte les carrières longues que vous disiez justement, mais également les carrières pénibles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans le système actuel. Donc il va falloir la réformer, ce système de retraite. Maintenant, l'enjeu est de savoir sous quelle modalité, sous quelle temporalité. Et là, je me permets de dire que ce soit aujourd'hui ou dans 3 mois, il faut le faire. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a besoin de 3 mois, 6 mois, 1 an de plus pour discuter, concerter, consulter. Ça fait 15 ans.
C'est important quand même de discuter.
Ça fait 15 ans qu'on parle de cette réforme des retraites.
Oui, mais elle avait été abandonnée à un moment. Donc là, tout d'un coup, c'est une autre réforme. Cette réforme, elle n'a rien à voir avec celle qui était prévue avant le Covid. Donc il faut rediscuter, ça paraît logique.
Vous avez tout à fait raison. Et heureusement qu'on est capable d'être agile et de se dire, on prend aussi les enseignements des crises qui sont devenues devant nous. La crise Covid nous a justement rappelé qu'on avait des pensions trop faibles. La crise Covid nous a justement rappelé qu'il y avait des professions, notamment nos fameuses premières lignes, dont on ne parle plus du tout. Mais nos premières lignes, quand elles arrivent à la retraite, elles arrivent dans un système profondément dur pour elles.
Oui.
Et bien ça, il faut le regarder, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que, effectivement, la réforme telle qu'elle veut être menée aujourd'hui n'a plus tout à fait la même tête qu'il y a quelques années. Mmh. Parce que nous prenons en compte les enseignements que les crises nous ont montrés. Donc oui,
il faut. Oui, mais dans ces cas-là, il suffit de légiférer sur la pénibilité. Et on n'est pas obligé de légiférer sur le recul de l'âge de départ à la retraite, en fait.
Bien,
c'est deux sujets
bien,
différents.
Oui et non. Parce qu'en fait, l'argent magique, je suis désolée de le dire ici, mais n'existe pas, et que tout ça est un coût. Donc soit on fait en sorte de légiférer sur les pénibilités, sur l'augmentation des pensions minimales de retraite, sur les carrières longues, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc on cotise encore plus quand on est en train de travailler, donc on met ça sur le coût du travail, alors or on veut baisser la fiscalité et les impositions sur ceux qui travaillent, ou alors on décide d'être moins visionnaire et de ne pas augmenter les pensions minimales. L'argent magique n'existe pas. Donc oui, cette réforme que nous voulons mettre et mener à bien a un coût, et ce coût, il faut l'avoir sur un allongement avec la date de départ à la retraite qui sera plus âgée, sachant que, soyons très clairs, de toute façon, on rentre aujourd'hui plus tard dans le marché du travail. Donc en réalité, il faut aussi pouvoir prendre en considération ces évolutions.
Ouais, mais on vit pas forcément plus longtemps en bonne santé. C'est-à-dire que c'est un âge qui stagne depuis quelques années. Donc en fait, plus vous reculerez, moins on pourra. Enfin, moins on pourra profiter de notre retraite quelque part.
Eh bien ça va aussi avec d'autres aspects que nous sommes en train de mettre en place, notamment dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est les fameuses 3 consultations aux âges clés de la vie pour justement être plus que dans du soin curatif, mais dans de la prévention, oui. De l'anticipation. Donc encore une fois, c'est multifactoriel. Je ne dis pas ça parce que c'est un totem. Le sujet n'est absolument pas un totem. Mais quand on était en pleine période de Covid et qu'on voyait nos premières lignes partir à la retraite dans un système complètement égalitaire et complètement, pour le coup, dur pour eux, la question ne se posait pas. Je suis assez étonnée qu'on ait aujourd'hui oublié ça. Il faut qu'on puisse avancer dessus.
Alors, très rapidement, Jérôme Lavrieux.
Oui, moi j'entends ce que vous nous dites en disant qu'il faut une réforme plurifactorielle, multifactorielle. Donc une réforme ambitieuse. Donc ça ne peut pas rentrer par un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale parce qu'un seul amendement ne peut pas résoudre tout ce que vous venez de nous dire sur la pénibilité, les petites retraites, ceux qui étaient en première ligne. Tout ça, ça ne peut pas rentrer dans un amendement. Donc il n'y aura pas, selon vous, d'amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale, mais un texte de loi global qui devrait être discuté ultérieurement. J'en déduis ça de ce que vous venez de nous dire.
Alors en fait, c'est ni noir ni blanc. De toute façon, on peut pas tout mettre dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Sinon, ça serait considéré comme pas dans le bon texte, le bon véhicule législatif.
Et un cavalier budgétaire, un cavalier législatif.
Exactement, monsieur. On dit la même chose. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est il faut que ça puisse avancer dans le meilleur véhicule législatif, que ce soit un amendement ou d'ailleurs une discussion plus large dans le cadre d'un texte plus large, mais il faut qu'on avance. Et c'est ça en réalité aujourd'hui, je vous le dis franchement, vous devez le voir quand vous êtes en dehors de vos chaînes de radio. Les Français, ils veulent que ça avance. Maintenant, il faut que ça avance.
Prisca Thévenoud, les Français, ils veulent pas que ça avance. Ils veulent le statut. Ah bah oui.
Minimum de retraite, ils veulent pas.
Ah, si, ça, ils veulent, mais travailler plus, ils veulent pas, ça, je vous le dis.
Mais ils veulent pas qu'on augmente les cotisations non plus, qui sont déjà à un niveau hallucinant en France.
Ah oui, mais alors, attendez, madame, vous dites tout et son contraire.
Ah, pas
ils
du tout.
Ils veulent qu'on puisse augmenter, si. Vous dites, ils veulent, je vais expliquer, du coup, tout le monde veut, et j'espère, qu'on augmente les pensions minimales de retraite, mais comment on finance ça?
Attendez, ça c'est votre problème, pas le mien. Vous me dites. Je suis désolée, moi je suis pas au gouvernement.
C'est tous les Français, madame. C'est votre problème aussi.
Non, mais d'accord, mais là vous me dites, mais vous prenez ce qui vous arrange en me disant, les Français veulent augmenter les pensions de retraite. Bah oui, et puis si vous demandez aux Français est-ce que vous voulez augmenter les salaires, bah oui, la réponse sera oui. Ça c'est. Je connais personne qui le veuille pas.
Mais
sauf que si vous demandez aux Français est-ce que vous voulez travailler plus pour augmenter les petites pensions, je suis pas du tout sûre que le résultat sera le même. Donc en fait, vous pouvez pas prendre que ce qui vous arrange en fait.
Non, c'est pas c'est ce qui nous arrange. C'est-à-dire, avoir un discours politique, c'est avoir un discours en responsabilité. L'argent magique n'existe pas. Je suis navrée.
Je suis d'accord.
On peut pas dire qu'on veut partir en vacances si on travaille pas pour essayer de financer, économiser pour partir en vacances. Je pense que c'est aussi ça, de pouvoir avoir un discours. Alors, c'est pas facile à le dire, parce que c'est pas forcément agréable à entendre. Je pense que c'est aussi de notre responsabilité de le dire aujourd'hui. Que oui, nous voulons un système de retraite plus égalitaire, qui prenne en compte les pénibilités, qui augmente les pensions minimales, qui prenne en compte les carrières longues.
Et qui oblige à travailler plus longtemps.
Mais ça a un coût. Alors, soit on décide qu'on impose ça aux gens qui travaillent aujourd'hui, et donc, le fruit de leur travail va leur rapporter moins. C'est pas notre objectif, c'est pas notre vision, ça peut être une vision partagée ailleurs, mais ça n'est pas la nôtre. Soit on dit, eh ben oui, on recule l'âge de départ à la retraite.
D'accord.
Parce que factuellement, on rentre plus tard sur le marché du travail et qu'on espère vivre plus longtemps. Et effectivement, je vous rejoins, vivre mieux plus longtemps.
Ah, ce serait mieux. Rapidement, Péricot.
Madame Thévenoud, il n'y a jamais aussi peu eu de consensus sur ce dossier essentiel et brûlant. Et en plus, vous n'avez pas la majorité absolue. Vous êtes en train de jouer aux apprentis sorciers. Vous savez très bien que ça ne peut pas bien finir. Aucune des conditions d'une négociation à l'amable et d'un consensus n'est réunie. Aujourd'hui, je parle de cette semaine. Voilà. Mais si le président de la République et le Premier ministre disent on passera, on trouvera une solution avant la fin de la semaine, je pense que vous exposez à de sérieuses déconvenues. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que ça marche. Je vois pas comment vous pouvez arriver dans le contexte actuel.
Merci en tout cas Prisca Thévenoud d'avoir été avec nous, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. On va prendre Christophe tout de suite qui nous a appelé au 32-16 et qui nous appelle de Guéret dans la Creuse. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bah, merci d'être avec nous sur RMC, premier auditeur de la semaine, Christophe. Est-ce que vous avez été convaincu par ce que vient de nous dire Prisca Thévenoud, à savoir que cette réforme, elle est absolument nécessaire et qu'il faudra travailler plus?
Bon, non, enfin, j'ai bondi quand je l'entendais parler. C'est pas possible d'être aussi buté ou borné, je ne sais pas, que ça. La réforme, je suis pas sûr qu'elle soit nécessaire. Encore une fois, pourquoi si c'est pour augmenter les petites retraites, pourquoi pas? Mais je rappelle aussi qu'il y a des gens qui ont toutes les annuités, qui arrivent à 42 ans d'annuité, mais qui n'ont pas le minimum vieillesse parce qu'ils n'ont pas l'âge. C'est-à-dire que le minimum vieillesse, c'est à partir de 65 ans. Donc, il y a des gens qui partent en retraite à 62 ans, ils sautent à 800 euros de retraite, mais il faut qu'ils attendent encore 3 ans avant de toucher le minimum vieillesse. Donc ça, il faudrait peut-être déjà faire un effort là-dessus, et je pense que ça irait déjà mieux. Il ne faut pas oublier qu'il y a 15% de pauvres en France. Enfin, je veux dire,
mais ils sont majoritairement parmi les jeunes et pas parmi les retraités. Christophe, est-ce que vous voyez travailler jusqu'à 65 ans? Je crois que vous êtes très jeune, hein, Christophe, mais
oui,
voire même au-delà.
Ans, ouais. Ouais,
ah oui, donc
ans.
Vous avez le temps de voir venir.
Je suis très jeune, mais merci. Mais non, je me vois pas. Moi, j'ai la tête dehors tous les jours, qui pleuve, qui vente, qui neige, qui est du soleil. Enfin, c'est pas des métiers. Enfin, les métiers extérieurs, on peut pas se permettre ça. Et puis encore une fois, le pourquoi du comment. S'il manque de l'argent, l'argent, il est facile à trouver. La GIRC Arco, c'est 3 milliards d'excédents cette année. Le corps a dit, le truc à Monsieur Jospin, c'était 30 milliards. Enfin, je veux dire, la fraude aux prestations sociales, ça peut rapporter 50 milliards. La fraude aux prestations sociales,
mais ça demande
le moyen. 80 milliards. Bah ouais, mais bon, si on se donne les moyens, il y a moyen de faire les choses sans casser un modèle social, je pense.
Bah merci Christophe en tout cas de nous avoir appelé au 32-16. Christophe qui nous appelait de la Creuse. Ah, un breton, c'est Mathieu qui nous appelle du Morbihan. Bonjour Mathieu.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Bonjour. Mathieu, vous faites quoi dans la vie?
Je suis routier.
Ah bah écoutez, super. Et vous êtes prêt à travailler jusqu'à 65 ans, Mathieu?
Si il faut, oui. Alors, je suis d'accord avec sur certaines choses, sur certaines réformes que l'auditeur d'avant, Pierre, je crois que c'est ça.
Christophe.
Christophe, voilà. Après, c'est pareil, il disait qu'il est dehors. De toute sa vie que c'est un métier pénible. Son métier, il n'a jamais été couvert. Un maçon, quand il commence à travailler à 16 ans, son métier sera aussi pénible plus tard. Je pense qu'il y a un moment, il faut, on va dire, nos anciens, ils ont bien profité de leur retraite, profité du système. Peut-être que le système a été mal fait et que, bah voilà, il serait peut-être temps de le réformer, qu'il y aurait peut-être, certes, il y a la réforme des retraites à refaire pour que, bah, pour justement, pour nos enfants plus tard puissent profiter encore de ce système-là, de la retraite. Mais il y a aussi peut-être le système aussi du chômage où il faudrait peut-être insister pour mettre les Français au travail, qu'il faudrait peut-être
Alors, je voulais juste préciser qu'en Allemagne et en Suède, l'âge de départ à la retraite est de 67 ans et ça se passe bien.
Voilà. Rien à voir avec nous.
Moi, j'ai commencé à travailler à 15 ans et demi à 16 ans. Moi, s'il faut aller jusqu'à 65 ans.
Vous avez été routier à 15 ans et demi, Mathieu, ça m'étonne.
Non. Quand j'ai commencé, j'ai un premier métier, j'ai fait boucher.
Voilà, d'accord.
J'ai commencé en tant que boucher. J'ai fait de la boucherie pendant 15 ans. Après, voilà, j'ai eu des choix à faire. Soit je continuais à la boucherie, ou soit je partais dans autre chose. J'ai voulu voir autre chose. Je suis parti routier. Et voilà. Et puis, vous savez, dans les routiers bénéficient d'un système de retraite spéciale, ça s'appelle le CFA. Ouais. Les routiers peuvent partir au bout de, je sais plus, je vais dire des conneries, mais je crois que c'est 20 ans ou 25 ans de grandes routes, peuvent partir à 57 ans à la retraite. Il y a beaucoup de routiers qui partent à 57 ans à la retraite et qui reviennent à 62 ans parce que pendant 5 ans, ils ne peuvent pas travailler, qui reviennent à 62 ans travailler sur les routes parce qu'ils ne touchent rien à la retraite, parce qu'ils n'ont pas assez.
Bien sûr.
Donc il y a quand même un souci là-dessus. Donc je pense qu'il faudrait augmenter le nombre de cotisants en mettant les Français au travail aussi, parce que du coup,
c'est aussi une solution.
J'ai croisé une personne, un jeune, à la fois un boulanger. Le mec, je fais, tu travailles dans quoi? Il fait, je suis boulanger, là, tu travailles où? Je fais, non, je suis à la maison, je suis au chômage. J'étais étonné, je fais, mais il n'y a pas de boulot? Si, mais bon, c'est pénible et tout. Je fais, je sais pas, non. Dans ces cas, dans le métier de boulanger, tu savais dès le départ que tu te lèves à minuit, que tu as des journées de merde et que tu n'as pas de week-end, quoi.
C'est une belle vision du métier, Mathieu.
C'est pourquoi il y a de grands boulangers.
Quand on choisit un métier et qu'on se donne à fond dans ce métier-là, c'est parce qu'on aime ce métier.
Vous avez raison, Mathieu, mais il y a des gens qui malheureusement, Mathieu, vous avez choisi votre métier, moi aussi, mais il y a des gens qui ne choisissent pas leur métier et qui font
que
leur
pour
métier
cotiser pour aller en vacances, pour certains.
Mais effectivement, après, Mathieu a raison, plus il y aura des gens qui travailleront et moins on sera obligé.
Mais c'est le sens de l'histoire quand même. Portugal, Italie, 66 ans. Donc je disais, la Suède va voter pour 69 ans. Oui. L'Espagne va passer à 67 ans dans les 5 ans qui viennent, on est dans le sens de l'histoire. On est tous en train de faire pareil.
Allez, on a fait un sondage sur le compte Twitter de l'émission Estelle Midi. Le gouvernement doit-il foncer sur la réforme des retraites, Thibault?
Et vous êtes non à penser que, vous êtes 72% à penser que non, le gouvernement ne doit pas passer en force via le 49.3 pour cette réforme des retraites.
Vous avez des messages, Thibault?
Oui, j'ai des messages, notamment Julien qui lui dit il faut foncer parce que la réforme des retraites est nécessaire, ne serait-ce que pour trouver des financements pour faire face à l'entrée dans le grand âge et la dépendance de la génération du baby-boom.
C'est ce qu'on va faire, Thibault. On va lancer une petite pub pour que vous enleviez votre petit chat dans la gorge. Parce qu'on est sympa, Estelle Midi, et c'est quand même votre baptême du feu, et on a vraiment envie d'être hyper gentil avec vous. Allez, dans un instant, on parlera de la disparition des bureaux de poste, disparition progressive dans les centres-villes. Est-ce que ça vous choque? Eh bien, écoutez, on attend vos témoignages au 32-16. Dites-nous si ça vous complique la vie, si votre bureau de poste a disparu près de chez vous. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story, canal 23, il est midi 33 et on est avec vous jusqu'à 15h dans Estelle Midi avec Thibaut Texer, Perry Collégas, Emmanuel Dancourt et Jérôme Lavrieux. Avec vous bien sûr au 32-16 pour parler de la fermeture du jour, c'est celle des bureaux de poste dans les grandes villes à Paris par exemple. 80% des bureaux de poste ont baissé le rideau depuis 2014 et la fermeture programmée de 4 nouveaux bureaux dans les prochaines semaines provoque la colère des Parisiens, Thibaut.
Mais oui, pour tenter de ce qu'il est encore possible, certains ont lancé une pétition en ligne depuis 2016, une quarantaine de bureaux de poste ont déjà été fermés dans la capitale. Des bureaux remplacés par des relais contacts commerciaux permettant, selon la direction du groupe, de mieux répondre aux besoins des citadins via, entre autres, des horaires étendus. Cette même direction qui pointe une diminution de la fréquentation dans les bureaux concernés, 100 000 clients de moins en 8 ans, ainsi qu'une baisse du volume de courriers envoyés. Une suppression pointée du doigt par l'élue communiste de Paris, Barbara Gomez, qui s'étonne qu'une entreprise externalise ses services au détriment de sa mission de service public auprès de la population. Paris n'est pas la seule concernée, puisqu'entre 2015 et 2020, près de 1800 bureaux de vote ont été fermés sur l'ensemble du territoire. L'Est du pays étant particulièrement concerné.
Ah oui. Alors, la fermeture des bureaux de poste dans les centres-villes, est-ce que ça vous choque? Je vais commencer avec vous, Emmanuel.
Alors, je viens d'entendre ce que dit Thibault. L'Est est particulièrement concerné, je confirme. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ça arrive dans les centres-villes, parce que dans les campagnes, on connaît ça depuis un moment, et rien que moi, dans mon petite agglomération avec mes plusieurs villages, notre bureau de poste a fermé, effectivement, il y a 6 mois. C'est une compétence qui a été reprise par la mairie. Ils appellent ça... Ah ben attends, je vais t'expliquer. Ils appellent ça une agence communale. Tu peux, grosso modo, acheter des timbres, envoyer des lettres et retirer de l'argent. Mais alors, c'est ouvert uniquement le mercredi après-midi, le jeudi matin, le vendredi matin. Autant dire que moi, je suis à RMC à ce moment-là, ou que le mercredi, je m'occupe de mon petit. Donc en fait, pas le samedi matin, enfin, pas quand ça m'arrange. Et tu fais comment? C'est très compliqué, parce que quand tu veux venir chercher un colis, c'est à 20 km plus loin, dans un village à 20 km plus loin. Donc nous, on a complètement perdu en compétences. Elles font ce qu'elles peuvent, hein. Les filles qui sont là, elles font vraiment ce qu'elles peuvent, mais c'est pas des gens
qui ont une énorme formation. Personne, j'imagine.
Bah, plus personne. Moi, je suis dans une vallée qui n'arrête pas de se gonfler en termes d'habitants. Donc, j'aimerais qu'on me prouve qu'il n'y a plus personne dans ma vallée, parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui arrivent, de jeunes couples, comme c'est beaucoup moins cher qu'à Dijon, puis que c'est la campagne et qu'on tend vers ça. Donc, j'ai du mal à comprendre.
Pas des lettres commandées tous les jours non plus, c'est ça que je veux dire.
C'est évident que j'envoie pas des lettres commandées, tous les jours, et que résultat, maintenant, je fais ça, soit depuis Paris, soit depuis Dijon, quoi.
C'est le sens de l'histoire, finalement, Jérôme Lavrieux, cette fermeture des bureaux de poste, même si ça nous attriste, hein.
Mais c'est pas la poste qui fait l'histoire, c'est nous qui la faisons. À force de plus y aller dans les bureaux de poste, s'il n'y a personne dedans, il ne faut pas s'étonner que ça ferme. Quand j'étais...
Il y a toujours du monde à la poste, excusez-moi.
Mais pas toujours,
quand je vais à la poste, il y a toujours du monde.
Je vais vous dire un truc, on parle, parce que ça c'est un truc que dans le monde rural, on connaît depuis longtemps.
Bah voilà.
Moi, il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai 12 ans, j'étais un modeste conseiller général, on appelait ça à l'époque. Je m'occupais de 19 communes, un canton, Péricot, c'est exactement ce que c'est. Ils sont venus en délégation me voir, parce que le bureau de poste allait fermer dans 3 mois.
Bah oui.
C'est un peu tard. Et j'ai dit, mais ah oui, c'est un scandale, faut pas qu'il ferme. J'appelle le mec de la poste, il me dit, il y a personne qui vient dans le bureau. On paye un bâtiment, on paye quelqu'un, il y a 2 personnes par jour qui viennent. Donc j'ai réuni tout le monde, j'ai dit, mais c'est vous qui avez tué le bureau de poste. À force d'aller faire vos courses en ville, déposer votre courrier ailleurs, c'est vous qui l'avez fermé. On a fermé le bureau de poste, on a fait venir une coiffeuse à l'époque, ça redonnait plus de vie au village. Il y a juste un truc dans ta démonstration, t'oublies de dire, c'est que la poste, elle vient chez toi tous les jours.
C'est vrai.
Ah bah ouais, c'est le seul service public en France.
C'est compliqué de laisser une lettre commandée au facteur.
6 jours sur 7, il n'y a plus personne qui fait des lettres commandées, à part mon avocat.
Bah non, sauf que moi, elle vient de 20 km.
Obligé
de
mais c'est rare, tu peux même la faire par Internet.
Mais quand tu as un syndic qui t'envoie des lettres commandées, là, en plus, c'est horrible, tu ne sais même pas ce que c'est, tu te sens obligé d'aller à la poste et tu vois que c'est ça.
Quand il t'envoie les lettres commandées, la poste les amène. Elle te l'amène, si tu n'es pas là la première fois, elle te dit je vous le représente.
Le lendemain. Même si tu es là, elle sonne pas.
Et si le lendemain, tu n'es pas là, tu peux dire, voilà, de telle heure à telle heure, je serai
oui,
là.
Bah oui, bah oui. Bah oui, mais quand tu es là à partir de 20h, c'est pratique.
Non, non.
Bah oui, il y a des gens qui bossent, excusez-moi, Jérôme Larue, mais ça existe.
T'as les moyens de faire ouvrir des bureaux de poste jusque 20h dans tous les bleds de France.
Non, mais c'est pas.
Mais non, mais là, on est dans la démagogie.
Mais pas du tout.
Non, mais attends, moi, on m'a envoyé un bouquet de fleurs, j'ai mis 20 jours pour aller.
Oui, par la poste.
Personne ne fait ça.
Mais si, le service Interflora, c'est ça. On m'a envoyé un bouquet de fleurs au moment où notre poste venait de fermer, donc il fallait que j'aille le. Je savais pas que c'était un bouquet de fleurs. J'ai mis 20 jours pour aller chercher mon recommandé. Tu veux que je te dise dans quel état étaient mes fleurs au bout de 20 jours quand j'ai fait 20 km pour aller les chercher. Bon, bah,
il y a les fleurs séchées. Ah bah, comme ça,
scandale, la poste n'était pas prête à te livrer le bouquet de fleurs.
Perico Legas, est-ce que pour vous, je sais que voilà, vous êtes toujours dans la défense des services publics, est-ce que ça vous attriste cette fermeture ou est-ce que vous trouvez ça logique finalement?
Je m'incline navré devant le raisonnement libéral de Jérôme Labrieux. C'est un fait. Le peuple français s'effondre sur le plan culturel, on n'écrit plus. On est sur le numérique et le digital, on est dans la paresse, on se déplace plus, on commande tout, le drive pour et maintenant la commande. Effectivement, alors je pleure cette période où nous avions besoin de services publics présents, mais à Paris je vais de plus en plus loin pour ce que je continue à écrire avec des à coller des timbres.
Non, mais les boîtes aux lettres, elles existent toujours.
Pour acheter un timbre, ça se vend au supermarché.
Non, le mettre, l'expédier, parce que les boîtes aux lettres sont condamnées, parce que comme il y a des gens mal intentionnés qui mettent des cochonneries dans les boîtes aux lettres, donc ils les condamnent. Donc aujourd'hui, faut aller au bureau de poste central de l'arrondissement. Oh, et là, dans notre commune, où je suis.
On n'habite plus à Paris, faut arrêter.
Non, mais moi, ce qui me fait matrice, c'est ce que ça signifie. Ça veut dire qu'on n'écrit plus que le numérique, le mail a remplacé tout ça, le recommandé. Maintenant, c'est fini.
Sauf pour les personnes âgées, quand même.
Toutes les démarches administratives. Bah oui, toutes les démarches administratives, c'est touche 1, touche 2, touche 3, répondez pas. Voilà, donc on a déshumanisé la société française, on déshumanise la France, qui devient un pays totalement, j'allais dire, électronique, technologique, et effectivement, les services de l'État qui étaient là, un jour, ben, laisser les métros sans conducteur, puis on aura des trains sans conducteur, enfin voilà, tout va comme ça. Donc c'est le sens, je dis pas que c'est le sens de l'histoire, c'est le sens de la catastrophe, c'est le sens du malheur, c'est le sens de la perte, mais je m'incline, effectivement, on n'a pas le choix, on peut pas faire autrement.
Alors on est avec Benjamin, qui est employé de la Poste, justement à Paris. Bonjour Benjamin.
Oui, bonjour à tous.
Et
bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Alors, on l'a dit, il y a beaucoup de Parisiens qui sont en colère parce que il y a 4 bureaux de poste à nouveau qui vont fermer dans Paris. 80% des bureaux de poste ont disparu depuis 2014. Vous qui travaillez à la Poste, est-ce que ça vous attriste ou finalement vous dites bah non, il y a plus personne dans les bureaux donc c'est normal.
Effectivement, il y a de moins en moins de personnes dans les bureaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Poste n'est plus une entreprise publique. C'est une entreprise privée qui est soumise à rentabilité. Et la baisse de son influence et des services qui sont de moins en moins utilisés, forcément, amène ce genre de situation. Mais encore, la Poste essaye quand même de sauver le maximum. Elle s'est développée sur la téléphonie, sur la banque, pour essayer justement de maintenir une activité complémentaire. Mais c'est indéniable. Et pour autant, elle cherche quand même des relais partenaires. Alors là, l'exemple de la mairie, c'est un mauvais exemple. Mais c'est vrai que trouver un commerçant qui a des horaires et des amplitudes plus larges, c'est finalement peut-être aussi rendre service aux clients, d'avoir des facilités pour pouvoir retirer une lettre ou un paquet.
Mais Benjamin, aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne le mieux à la Poste? C'est-à-dire que les gens qui vont à la Poste, ils y vont encore pourquoi?
Vous en avez qui viennent pour des opérations bancaires puisqu'ils sont clients de la Banque Postale, et vous en avez qui viennent principalement chercher leur lettre ou leur paquet puisqu'ils n'étaient pas présents à domicile au moment du passage du facteur. Mais c'est des opérations finalement qui ne génèrent rien en termes de plus-value.
De profit.
Ouais. Et le truc, Benjamin, c'est que j'entends bien qu'on pourra aller chez son boucher-charcutier chercher un colis. Ça, bon, bah, ça existe déjà avec d'autres formes de distribution de colis. Mais enfin, je vais pas faire une opération bancaire chez mon boulanger.
Ah non, ce sera les opérations bancaires n'iront pas. Les seules habilitées à faire des opérations bancaires, ce sont les agences postales communales. Sinon, ce seront effectivement des relais qui permettent de retirer des instances les paquets et d'affranchir. Mais avec le développement du numérique, la consommation des clients en va de même. Qui aujourd'hui, principalement, va dans sa banque pour faire une opération, hormis une opération exceptionnelle? La question est réellement là. Hein.
Oui, mais je suis d'accord. Mais
même au niveau de la banque, aujourd'hui, on peut tout faire par téléphone, notamment à la Banque Postale, qui s'est démocratisée là-dedans, qui s'est développée là-dedans.
Sachant, Benjamin, qu'il avait été question il y a 4-5 ans, je ne sais pas si vous l'avez fait finalement à la Poste, que les postiers viennent aider les personnes qui avaient besoin à remplir leurs papiers, qu'ils apportent une aide administrative. Ça a été fait, ça, ou pas, finalement?
C'est là où on peut louer, finalement, l'ingéniosité de la Poste. Parce que mine de rien, si elle ne se met pas à développer tout un tas de services, parce qu'effectivement, le facteur aujourd'hui peut amener dans les petites communes les médicaments, on a des services de livraison de repas, etc. Tous ces services ont été mis en place pour essayer de rentabiliser aussi la structure et éviter des fermetures en masse. Mais à un moment donné, il faut bien le faire pour une question de rentabilité et de survie finalement de la Poste.
Ben merci beaucoup Benjamin en tout cas d'avoir été avec nous. Benjamin qui est employé à la Poste. Vanessa nous appelle de Mayenne, de Saint-Berthevin. Bonjour Vanessa.
Bonjour, ravie de vous avoir.
Mais oui, non, mais quelle voix on jouait Vanessa, ça fait plaisir comme ça, un lundi midi.
Il faut.
Vanessa, vous faites partie de ces Français qui ont appris à se passer de la Poste.
Eh ben oui, parce que alors moi j'habite pas du tout à Paris, hein, comme vous l'avez dit, je suis en Mayenne. Mais c'est vrai que nous, notre bureau de poste, par exemple, il est ouvert de 9h à 17h30.
Ouais.
Donc quand on travaille, eh ben clairement, avant qu'on aille au travail, on peut pas. Et puis après, quand on rentre, eh ben c'est fermé. Donc on pourrait aussi y aller le midi, hein, mais en fait ils sont fermés de 12h30 à 14h.
Oui. Donc oui, parce qu'ils mangent, ce qui est normal, mais
voilà. Bien sûr. Après, il y a peut-être aussi un système de roulement qui aurait pu être trouvé. Je sais pas. Hein, je travaille pas dans l'organisation de la Poste, mais j'imagine qu'il y avait aussi des choses à faire de ce point de vue-là. Moi, je trouve ça vraiment dommage pour les personnes qui ont besoin des bureaux de poste. Je pense notamment à certaines personnes âgées qui ont leur compte bancaire à la Poste, etc. Oui. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est aussi une marque que tout le monde connaît, à laquelle aussi on a un certain attachement malgré tout, parce qu'on a tous vécu avec la Poste quelque part. Oui. Mais malheureusement, ouais, c'est le sens de l'histoire. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai appris à me passer de la Poste. Hein. J'imprime les timbres à la maison. Quand j'ai des colis à envoyer, je passe par d'autres systèmes. On n'est plus obligé de passer que par la poste maintenant. Donc, avec des horaires, des amplitudes horaires qui sont plus simples quand on travaille. Donc, je trouve ça dommage, mais effectivement, peut-être la poste s'est aussi laisser prendre à son propre piège ou pas, peut-être
ils sont pas assez adaptés au monde qui bouge. Merci beaucoup.
Exactement, je vous en prie.
Vanessa, d'avoir été avec nous sur RMC. Alors, justement, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi, @EstelleMidi, disparition de la poste en centre-ville. Est-ce que c'est choquant?
Alors, vous êtes beaucoup déjà à critiquer justement les horaires comme Vanessa. Ouais. Mais pour 85% d'entre vous, oui, c'est choquant que la poste ferme pour autant de bureaux.
Bah oui, parce qu'on est quand même attaché. On est attaché à la poste, public. Évidemment.
Depuis Louis XI.
Bah oui. Oui, alors ça, on a moins connu, mais enfin, on est attaché quand même.
Nous.
Dans un instant, Anthony Morel, qui viendra nous parler de la cyberattaque, vous savez, qui a touché l'hôpital de Corbeil-Essonne avec aujourd'hui des milliers de données personnelles dans la nature. Il viendra nous parler de cette affaire. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 49 sur RMC, il est temps d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Bon, là, c'est pas un super progrès, Anthony, parce qu'on parle des cyberattaques. Donc, on peut pas dire que ce soit un progrès absolument génial. La cyberattaque qui a touché l'hôpital de Corbeil-Essonne il y a quelques semaines, avec des conséquences dramatiques sur l'organisation de l'hôpital et puis aujourd'hui sur les données des patients qui se retrouvent dans la nature.
Eh ben, exactement. Alors, je vous donne rapidement le contexte, parce qu'on avait pas mal parlé de cette histoire. Hein, l'hôpital qui s'était retrouvé complètement paralysé, à la suite d'une cyberattaque. Il y a des opérations qui avaient dû être reprogrammées, des patients qui avaient dû être redirigés, parce que, effectivement, tout est géré par informatique et que là, le système informatique était complètement verrouillé. Les hackers, les cybercriminels plutôt, demandaient une rançon de 10 millions de dollars, alors qu'ils avaient été revus à 1 million. Je ne sais pas trop comment ça avait été négocié, tout ça, pourquoi pas. Ils avaient fait une ristourne. Mais enfin, ils n'avaient pas été payés. Et surtout, ils avaient donné un ultimatum. Si le 23 septembre, on n'est pas payé, eh ben, toutes les données dont on a pris possession, on va les diffuser sur Internet, on va les lâcher dans la nature. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire ce week-end. Donc là, on a 11 gigaoctets de données qui se retrouvent sur le dark web. Alors, des données qui concernent...
Oui, nous, on ne peut pas y accéder, je veux dire.
Alors, oui, monsieur et madame, tout le monde, c'est un peu compliqué, effectivement. Mais enfin, des gens mal intentionnés, eux, peuvent y accéder. Et quand je vous dis des données, c'est pas simplement des données qui concernent le fonctionnement de l'hôpital, c'est aussi des données personnelles des patients, c'est-à-dire des numéros de carte de sécurité sociale, mais aussi des données médicales, c'est-à-dire des résultats d'examen, par exemple.
Vous voyez,
des
qu'est-ce que tu veux qu'ils en fassent, les gens?
Ah ben, ils peuvent en faire plein de choses, en fait. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire, par exemple,
que tu sais que Monsieur Dupont, il s'est fracturé la jambe droite. Bon bah.
Eh ben, je vais te donner plusieurs exemples. Premier exemple, le phishing, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas recevoir un mail de l'assurance maladie, soi-disant de l'assurance maladie, qui va te dire, Madame Dupont, justement, vous êtes fracturé la jambe, vous avez fait un IRM de la jambe la semaine dernière. Voici le lien pour obtenir votre remboursement. Là, d'accord, tu fais confiance parce que tu te dis, bah oui, c'est bien, c'est la sécurité sociale, forcément, ils savent que je me suis fracturé la jambe, ils ont cette information-là. Donc c'est du phishing, du hameçonnage, mais ultra, ultra ciblé. On peut aussi s'en servir éventuellement dans des scénarios un peu plus élaborés pour faire de l'extorsion. auprès des célébrités, par exemple, dans la liste où il devait y avoir 2-3 personnes connues. Ah bah oui, tiens, il a peut-être pas envie, lui, qu'on sache qu'il a tel ou tel problème de santé. On va le contacter, puis on va essayer de lui demander un petit peu de sous. Donc voilà, c'est quelques dessins des scénarios qu'on peut imaginer autour de ces données de santé, des fausses demandes de remboursement aussi. Ça fonctionne très très bien. Ouais, c'est-à-dire que, bah oui, évidemment, vous avez le numéro de sécu, vous avez toutes les informations, et bah vous allez, et ça, pour le coup, c'est des demandes, c'est des arnaques qui peuvent durer pendant très très longtemps. Il faut savoir que vos données médicales, c'est ce qu'il y a de plus précieux et c'est ce qui se revend le mieux sur le dark web. Ça se revend 6 à 10 fois plus cher que vos données bancaires, par exemple. Vous savez, un dossier médical complet, ça tourne autour de 350 €. Vous savez pourquoi? Parce que vos données bancaires, elles sont périssables. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous en rendez compte que vous êtes fait arnaquer, bah, vous faites opposition, carte, c'est terminé, ouais. Vous changez de carte, voilà. Les données médicales, ça peut être utilisé sur du très long terme avant qu'on ne se rende compte qu'il y a une arnaque et donc, bah, on peut.
Tu changes pas de corps, quoi.
Exactement. Voilà, c'est tout le problème.
Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Parce que là, bon, là pour les patients de l'hôpital de Corbeil, ben non, c'est
ouais,
là c'est fini,
c'est
ils
compliqué.
Sont plus protégés. Mais nous, je veux dire, voilà, monsieur et madame tout le monde, pour se protéger de ce genre d'attaque.
Alors, les patients qui sont concernés, c'est quand même 1,5 million de personnes, hein, parce que c'est tous les patients de ces dernières années, ils vont recevoir apparemment un courrier qui va leur donner bon toutes les mesures à prendre, même si vous avez raison de préciser que c'est fini. Hein. Je veux dire, une fois que le cybercriminel a fait son œuvre et que les données ont été évaporées, sont mises dans la nature, c'est terminé. Nous, ce qu'on peut faire, c'est comme à chaque fois, hein, c'est des règles de bon sens, des règles qu'on appelle d'hygiène numérique. Donc, on fait attention, évidemment, aux mails qu'on reçoit. On n'ouvre pas les pièces jointes de destinataires qu'on ne connaît pas. On ne redonne pas son mot de passe ou ses informations bancaires. Jamais la sécurité sociale ou votre opérateur téléphonique ou EDF ne vous demandera ça dans un mail. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, faites attention à ça. Les mots de passe, évidemment. Si on peut, sur des données un petit peu sensibles comme ça, utiliser la double authentification, c'est vrai que c'est un peu pénible. On perd un peu de temps.
Pénible.
Mais je sais bien. Mais au moins sur les sites un petit peu sensibles, ça peut quand même avoir du sens de le faire et de pas mettre le nom de votre animal de compagnie en mot de passe, évidemment, qu'on va retrouver en 2 secondes sur Facebook. C'est un peu problématique aussi. Et puis, si vous êtes vous-même victime de ces attaques par rançongiciel, comme on appelle ça, parce que ça touche aussi les particuliers. On prend votre ordinateur en otage, on verrouille le système informatique, on vous demande une rançon. Ne jamais payer la rançon puisque vous n'avez aucune assurance, évidemment, qu'on va vous rendre vos données.
Oui. Donc, ou même qu'on va pas recommencer.
Non, mais il faut partir. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe qu'une fois que ça vous est arrivé, bah ça fait mal, mais c'est trop tard en fait. Vous ne pouvez plus rien faire. Donc prenez des mesures en amont. Sauvegardez vos informations tout le temps. Disque dur externe, sauvegarde dans le cloud. Faites en sorte que si ça vous arrive à un moment, eh bah, vous perdiez un petit peu de données, mais pas trop quand même. Voilà, parce que c'est tout de suite un petit peu embêtant. Et c'est valable pour les particuliers. C'est aussi valable pour les entreprises. J'ai dit surtout pour les entreprises, que c'est elles qui sont les cibles principalement.
Merci Anthony. On va faire attention. On va tout changer.
On peut les retrouver.
Alors on sait qui c'est. Alors, c'est un groupe de hackers russophones. Oui, c'est hackers. Mais après, pour aller les chercher au fin fond de la Russie, bon courage. Hein. Mais on a à peu près une idée, en tout cas, du groupe auquel ils appartiennent.
On fait quoi demain, Anthony?
Ah, demain, on va parler bâtiments, maisons, fenêtres. Voilà. Des super fenêtres.
Ah, génial!
Ouais, des fenêtres. Alors, avec la crise énergétique, il y a des fenêtres qui vont peut-être vous faire économiser sur la facture énergétique. On va donner des super pouvoirs aux fenêtres.
Ah, génial. Mais on a hâte d'être à demain, Anthony. Anthony Morel, tous les jours, midi 50, dans Estelle Midi. Dans un instant, on parlera de ce projet de loi à l'étude pour faire interdire les arrêts maladie en téléconsultation. Est-ce que c'est logique ou scandaleux? On vous attend au 32-16. Dites-nous, tiens, justement, si vous faites plein de médecins comme ça en téléconsultation pour essayer de grappiller des arrêts maladie. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.